fondons ensemble quelque chose de supranational, dans une entité supranationale. Et ainsi, tout sera très simple et très pratique.
Trait d'union.
Interrogation en profondeur sur la vocation et la destinée de l'Europe.
François Hollande s'est aussi inquiété à Strasbourg de la méfiance croissante des peuples vis-à-vis de l'Europe.
Tant qu'il y aura la crise, il y aura une défiance de l'Europe, même si ce n'est pas l'Europe qui fabrique la crise.
Trait d'union, le magazine hebdomadaire de l'Europe.
Parler ou définir l'avenir d'une nation comme la nôtre, sans situer cet avenir dans le cadre européen, on ne doit pas accepter que cette question soit éludée.
Madame Rosière, bonjour.
Bonjour.
Deuxième fois que nous nous rencontrons, et il me paraît important quand même que vous nous éclairiez, nous et nos auditeurs, sur vraiment le fonctionnement du Parlement européen et de comment ça se passe au quotidien presque.
Comme on l'a évoqué, le Parlement européen donc, est un ce qu'on appelle un co-législateur, c'est-à-dire qu'il élabore les textes de loi européens, qu'on appelle directives ou règlements. Il est co-législateur puisque c'est un travail conjoint avec le Conseil de l'Union européenne qui représente, il y a un représentant pour chacun des États membres. Le Parlement européen, lui, a une représentation démographique, c'est-à-dire que les pays les plus peuplés sont plus représentés que les pays les moins peuplés. Donc ça, c'est pour le pouvoir législatif, mais à côté de ça, vous avez un pouvoir exécutif, donc qui correspond quelque part au gouvernement de l'Union européenne. C'est la Commission européenne, dont le président est Jean-Claude Juncker, et qui comprend 28 commissaires, un commissaire pour chaque État membre. Mais ces commissaires ne sont pas là pour représenter leur État membre, ils sont là pour représenter. Ils ont chacun un portefeuille et ils sont là pour représenter l'intérêt général européen. Et d'ailleurs, on dit, et c'est un de ses rôles, que la Commission européenne est la garante des traités européens. Et donc, lorsque le Parlement s'est mis en place, en début de législature, tous les premiers mois d'activité du Parlement européen, en lien avec, bien sûr, les différents États membres, et de constituer ce pouvoir exécutif, cette Commission européenne. Et c'est un processus dans lequel le Parlement est très largement impliqué en tant que organe représentant des citoyens européens. Ça a été dit pendant la campagne, malheureusement, je vous le disais, il est parfois difficile de trouver l'espace, et donc l'espace médiatique, l'espace public pour parler d'Europe. Et c'est une raison pour laquelle je suis particulièrement ravie de pouvoir avoir cet échange avec vous. Et donc, un des éléments forts de la campagne des élections européennes en 2014, l'année dernière, c'est que, pour la première fois, le futur président de la Commission était directement lié au résultat des élections européennes. Je m'explique, c'est que chaque sensibilité politique principale, donc l'Alliance des socialistes et démocrates, le Parti populaire européen qui correspond à la droite européenne, les libéraux et démocrates qui correspondent au centre, les verts, l'extrême gauche européenne, avaient chacun choisi un champion, un candidat pour être le futur président de la Commission européenne. Ça paraît peu de choses, ou ça peut paraître anecdotique, mais c'est une évolution démocratique, un renforcement démocratique des institutions européennes particulièrement important, puisque jusque-là, auparavant, c'était le choix du futur président de la Commission, c'était avant tout une discussion un peu à huis clos, assez opaque, entre les chefs d'État et de gouvernement, qui présentaient la personne qu'ils avaient choisie au Parlement, qui était quelque part mis devant le fait accompli. Là, c'est vraiment une décision politique, la représentation d'une sensibilité politique, et quelque part, le futur président de la Commission tire sa légitimité démocratique de l'élection du Parlement européen. Et donc, la droite européenne, le Parti populaire européen étant arrivé en tête aux élections, je le déplore, mais c'est le résultat démocratique. Son candidat, Jean-Claude Juncker, était celui qui devait prendre la tête de la Commission européenne. Donc la question s'est posée dans la première quinzaine de juillet, dès la prise de fonction. C'était quasiment les premiers moments dans l'hémicycle européen, avec une certaine émotion pour ma part, je ne vous le cache pas, de me retrouver dans cette enceinte, d'écouter Jean-Claude Juncker, de créer les conditions du débat avec lui, et de définir une plateforme commune, parce que c'est quelque chose qui est parfois difficile à appréhender vu le bipartisme ou le fait la structuration bipartisane de la politique en France, surtout avec les institutions de la Ve République. au Parlement européen, au niveau européen, nous sommes dans des majorités de coalition. Et donc, Jean-Claude Juncker avait aussi besoin du soutien groupe de l'Alliance des socialistes et démocrates pour avoir une majorité au Parlement européen. Et donc, cette discussion a été l'occasion pour nous de pousser un certain nombre de nos demandes pour la réorientation de l'Union européenne, la relance de l'investissement public, la flexibilité des règles budgétaires et aussi une politique plus conciliante de la Banque Centrale Européenne en matière de gestion de la zone euro. Également la promotion d'un agenda social en Europe. Autant de demandes pour lesquelles Jean-Claude Juncker s'est engagé à les prendre en considération dans l'action de la future commission. Donc, j'ai pour ma part soutenu Jean-Claude Juncker au moment de sa désignation. Et ensuite, il a constitué autour de lui son équipe des commissaires. Donc, la désignation de Jean-Claude Juncker, c'était le 15 juillet. Et il a travaillé jusqu'en novembre pour ensuite, en lien là aussi avec le Parlement européen, nous avons auditionné les candidats, constituer quelque part son gouvernement de l'Union européenne.
Ma question serait également la suivante. Vous disiez que donc le Parlement était censé rédiger des lois. Mais qui est-ce qui va décider qu'on doit faire telle ou telle loi ?
C'était effectivement, vous mettez le doigt sur l'articulation des pouvoirs entre la Commission et les co-législateurs, donc Parlement européen et Conseil. C'est la Commission, en tant qu'exécutif, qui a le monopole de ce qu'on appelle l'initiative parlementaire, c'est-à-dire que c'est elle qui met sur la table de travail du Parlement et du Conseil, des projets de texte. Et donc c'est uniquement à son initiative qu'on peut se pencher sur certains dossiers. L'examen des dossiers se fait dans ce qu'on appelle les commissions parlementaires. Donc ce sont des entités dans le Parlement européen, thématiques, comme on les trouve, on trouve leurs homologues à l'Assemblée nationale ou au Sénat. On entend souvent parler de la commission des affaires économiques, de la commission des lois. Et bien de la même façon, le Parlement européen a des commissions parlementaires. Donc pour ma part, je suis membre de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, où on s'occupe de marché unique du numérique, de sécurité des produits, du marquage d'origine des produits, autant de sujets qui concernent à la fois les consommateurs européens et français, et puis aussi les entreprises dans leur possibilité d'exercer leur activité économique sur le marché européen. Et je suis également membre de la commission des affaires juridiques, où l'on s'occupe de questions très importantes aussi pour les entreprises et l'économie européenne, comme la propriété intellectuelle, les indications géographiques, le droit d'auteur, qui est particulièrement important pour la France, où l'activité culturelle et la production culturelle est extrêmement riche. Et donc c'est dans ces commissions que se fait le principal travail de rédaction législative, encore une fois sur la base des textes qui sont proposés par la Commission européenne.
Et également, est-ce que le fait que deux grands pays comme l'Allemagne et la France ont presque une majorité, dirons-nous, en voient tout au moins, est-ce que ça n'influe pas justement sur les décisions qui sont prises ? Parce que est-ce que chaque député a une voix, je suppose, et en conséquence de quoi ? Vous avez dit l'Allemagne, plus de 90 députés, mm-hmm. et la France 70, oui. Ça fait déjà 160.
Oui, mais vous savez, comme je vous le disais au Parlement européen, bien sûr qu'on peut, sur certains sujets, avoir une sensibilité nationale qui s'exprime, mais nous sommes avant tout organisés et nous travaillons par sensibilité politique. Et j'ai, sur une grande majorité de sujets, plus de proximité avec mes collègues italiens, espagnols, slovaques, qui partagent mon engagement et mes valeurs politiques, qu'avec certains collègues français qui ne sont pas du tout de la même sensibilité que moi. Vous savez, ces élections européennes ont conduit à l'élection de 24 députés sur 74 du Front National. Je pense que nos concitoyens n'en mesurent pas le dommage que cela crée à la fois pour la France et pour l'Europe, puisque ce sont des députés qui sont très peu présents, ne sont pas investis dans les commissions, ne travaillent pas. Et donc, quelque part, la représentation de la France se trouve ramenée à 50 députés au lieu de 74, ce qui est une perte d'influence à laquelle nous devons faire face au quotidien, mais qui est malheureusement le résultat du choix de nos concitoyens. Donc ça demande encore plus de travail, encore plus d'investissement pour faire entendre la sensibilité française, mais encore une fois, comme je vous le dis, cette sensibilité nationale est aussi très large, s'inscrit très largement dans un combat politique dans lequel les solidarités vont bien au-delà de l'appartenance nationale. Et pour ce qui est de l'Allemagne et de la France, ces deux pays ne représentent quand même qu'à eux deux que moins de 20% ou une vingtaine de pourcents du Parlement. Donc on serait bien loin d'élaborer une majorité. Créer une majorité, c'est aussi créer le consensus le plus large possible. Donc on aurait tort de s'arrêter à cette relation-là.
Vous parliez de fonctionnement et notamment de présence ou d'absence. Y a-t-il une obligation de présence ?
L'obligation, elle existe pour moi, mais elle est avant tout éthique et morale. Et donc c'est quelque chose qui est très important pour moi. Mais concrètement, il n'y a pas d'obligation formelle, si ce n'est que nous avons des indemnités qui nous sont versées et si les députés sont absents plus de 50% du temps, alors sur les séances plénières qui sont à Strasbourg, s'ils sont absents plus de 50% du temps, une partie de leurs indemnités ne leur est pas versée. Donc c'est une sanction financière qui a le mérite d'exister. Maintenant, les séances plénières, vous savez, c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de monde à Strasbourg. Tout le monde est là, c'est parce qu'effectivement, il y a cette contrainte-là. Mais le travail se fait aussi ailleurs. Il se fait aussi à Bruxelles, en groupe politique, en commission parlementaire, comme je vous le disais. Là-dessus, il n'y a pas d'obligation de présence. Mais je ne voudrais pas laisser penser que l'absentéisme est une généralité. C'est une généralité pour certains députés de certaines sensibilités politiques, mais la majorité des députés européens travaillent, est investie et œuvre pour justement porter à la fois les questions européennes et puis pour représenter les citoyens et leurs électeurs au Parlement européen.
Alors parlons de l'arrivée d'une députée européenne comme vous qui arrive au Parlement. Que se passe-t-il ? Il faut déjà comprendre le fonctionnement avant d'en découvrir les rouages, je suppose.
Oui, alors j'avais eu la chance de travailler comme fonctionnaire du Parlement pendant 2 ans, ce qui m'a grandement facilité les choses. J'ai pu le mesurer en voyant les difficultés de certains de mes collègues nouvellement élus. Ça m'a permis aussi de leur donner un petit peu d'aide lorsque ça a été possible. Néanmoins, c'est aussi un apprentissage parce que le rôle est différent. Le rôle de député, c'est un rôle différent. Il faut aussi se donner les moyens de l'action. Justement, je parlais de créer des majorités. Ça veut dire créer des solidarités, nouer des relations, faire valoir ses idées. Moi, je suis arrivée avec un projet qui me tenait particulièrement à cœur. Vous savez, je suis montpelliéraine, je représente le Sud-Ouest et j'avais été particulièrement heurtée des mésaventures de l'Aïeul, qui s'est vue quelque part voler son nom par un individu opportuniste qui a déposé le nom de l'Aïeul comme une marque. Et donc c'est un combat que j'ai voulu mener d'emblée au Parlement européen dès mon arrivée. J'avais en tête même avant l'élection quelque chose qui me tenait à cœur. Et donc il a fallu que je travaille par exemple pour être nommé rapporteur sur ce projet de rapport, ce que j'ai réussi à faire. Mais là aussi c'est un travail de longue haleine, il m'a fallu quelques mois, mais c'est chose faite. Et donc c'est un des projets que je porte au Parlement européen.
Et justement, comment devient-on rapporteur ?
Je suis arrivée au Parlement, j'ai tout de suite choisi des commissions parlementaires, donc comme je vous disais, marché intérieur et commission des affaires juridiques qui s'occupent de propriété intellectuelle et donc de droit des marques, pour être sûre d'être dans les commissions qui allaient s'occuper de ce sujet-là. Ensuite, ces commissions se constituent, des responsabilités sont réparties. En tant que nouvelle députée, c'est parfois difficile justement de se faire entendre et d'avoir l'influence suffisante. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin dès les premiers jours pour aller voir les collègues de mon groupe politique dans ces commissions-là pour leur expliquer ce dossier, leur expliquer pourquoi il était important pour moi, pourquoi il était important d'ailleurs, pas que pour moi, mais pour toute l'Union européenne, puisque dans énormément de pays, on a cette question qui est présente. Il n'y a aucune protection au niveau européen aujourd'hui sur les productions artisanales. On en a pour les productions agricoles, mais pas du tout pour les productions artisanales. Et pourtant, c'est un besoin. C'est quelque chose qui d'ailleurs s'est démontré au fil des mois, puisque beaucoup d'échanges ont eu lieu à la fois à l'initiative du Parlement, mais aussi de la Commission européenne sur ces questions-là. Et la demande des entreprises, des territoires est là. Il y a un besoin qui s'exprime, qui s'est exprimé. Et donc, c'est comme ça que la pertinence de cette action, la pertinence de ce dossier est quelque part, par mon action, par mon investissement, j'ai démontré aussi que j'avais les capacités et l'énergie pour porter ce dossier-là. Et donc, c'est en février que j'ai été nommée rapporteure pour ce dossier et que je le conduis. Il devrait être voté au Parlement européen à la rentrée, dès le mois de septembre.
Donc c'est avec grand espoir qu'on va donc terminer cette deuxième émission. On se retrouvera bien sûr pour d'autres sujets tout aussi intéressants et tout aussi importants. Merci encore.
Merci.
Fondons ensemble quelque chose de supranational, dans une entité supranationale. Et ainsi, tout sera très simple et très pratique.
Trait d'union.
Interrogation en profondeur sur la vocation et la destinée de l'Europe.
François Hollande s'est aussi inquiété à Strasbourg de la méfiance croissante des peuples vis-à-vis de l'Europe.
Tant qu'il y aura la crise, il y aura une défiance de l'Europe, même si ce n'est pas l'Europe qui fabrique la crise.
Trait d'union, le magazine hebdomadaire de l'Europe.
Parler ou définir l'avenir d'une nation comme la nôtre, sans situer cet avenir dans le cadre européen, on ne doit pas accepter que cette question soit éludée.